Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Cette semaine, nous avons choisi de mettre à l'honneur sur notre antenne du 1er au 7 avril la semaine étudiante de la durabilité qui a lieu à l'UTC, mais pas seulement à l'UTC puisque c'est à la base un événement national qui regroupe plusieurs écoles d'ingénieurs. Il y a un groupe de 6 étudiants d'une UV qui s'appelle DD01 pour Séminaire Développement Durable qui ont mis en place cette première édition. Et cette semaine, donc, on vous parle de cette émission, de cette édition de la SEDD. Ce matin, pour m'accompagner, deux invités pour parler du monde du libre, pas du libre dans le sens vous allez être libre, il est libre max, non pas du tout, dans le sens du logiciel libre. On va parler un petit peu de monnaie libre, on va parler de logiciel libre et de plein d'autres choses. Avec nous ce matin, Quentin Duchemin, président de Picasoft, et également Stéphane Croza. Vous êtes également enseignant, chercheur à l'UTC. On va revenir un petit peu rapidement sur votre parcours. Bonjour à tous les deux, bienvenue.
Bonjour.
On va parler du parcours de Stéphane Croza. Vous êtes enseignant, chercheur au génie informatique de l'UTC. Vous avez créé plein de choses. Vous allez dans plein de domaines différents. On va commencer très simplement par un livre que vous avez sorti il y a à peu près 6 mois, c'est bien ça?
Oui, en septembre.
On parle rapidement de ce livre
Oui.
À brûle-pourpoint comme ça.
À brûle-pourpoint comme ça, d'accord, on attaque par ça. Donc simplement, je sais pas. C'est un roman que
qui s'appelle Trace.
Donc j'ai publié. On va voir que c'est un lien avec le sujet d'aujourd'hui dans une maison d'édition qui s'appelle Framabook et donc qui est une maison d'édition qui publie des livres sous licence libre. Donc ça signifie que ce livre aujourd'hui il est librement téléchargeable en ligne, qu'ensuite on peut même le copier, en fait on peut même le modifier, on peut en faire ce que l'on veut dans le respect de la licence, au même titre que pour les logiciels libres.
C'est sorti chez Framabook, on reviendra un petit peu qu'est-ce que propose le Framasoft. Vous êtes également du coup chercheur au laboratoire Costec. Costec, ça veut dire connaissance, organisation et système technique. En gros, pour faire simple, c'est quoi le Costec?
C'est essentiellement des chercheurs en sciences humaines qui réfléchissent aux relations entre la technologie, l'influence de la technologie, et puis eh bien, l'impact sociétal et humain.
Donc c'est homme, technologie et société, c'est ça?
Ouais, et connaissance, il y a un mot qui a sauté. Mais donc c'est l'impact entre la technologie, enfin le lien entre la technologie, les hommes, et donc les hommes à la fois dans leur caractère social et dans leur caractère de relation à la connaissance, au savoir.
Vous avez co-inventé, vous participez à l'élaboration d'un logiciel qui s'appelle Scénari. Alors pour faire simple, Scénari, ça sert à quoi?
Pour faire simple encore, donc...
c'est toujours très compliqué, parce que alors, du coup, il y a plein de sujets, donc on n'a qu'une heure ensemble, donc le but, c'est d'aller un petit peu à l'essentiel pour que les auditeurs puissent comprendre un petit peu tout le schéma qu'on va pouvoir leur proposer ce matin.
Scénari, donc, c'est un logiciel qui va fêter ses 20 ans en juillet prochain, donc on organise de grandes rencontres à Nantes avec tous les utilisateurs. Et pour faire simple, donc, c'est un logiciel qui permet de créer du contenu d'une façon assez large. Donc, par exemple, du contenu pédagogique, donc des supports de cours qui peut être utilisé aujourd'hui. Enfin, c'est utilisé aujourd'hui, par exemple, par les enseignants du secondaire pour faire des cours pour les élèves. Mais c'est aussi utilisé, par exemple, comme un des outils du site servicepublic.fr, donc pour faire des contenus web ou des contenus papier ou etc. etc.
Contenu numérique, du coup.
Contenu produit en numérique, bien sûr, mais qui peuvent être ensuite publiés, y compris en version papier. Donc il y a aujourd'hui des éditeurs professionnels qui vont produire des documents papier à partir de Scénari.
Vous êtes également cofondateur de l'association Picasoft, d'ailleurs avec nous Quentin qui est donc le président actuel de Picasoft, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça?
Exactement.
Qu'est-ce que c'est, qui c'est qui nous présente Picasoft, puisque c'est une association de l'UTC, qui fait partie du mouvement Chaton? On pourra revenir à qu'est-ce que c'est le mouvement Chaton? Qui c'est qui nous présente?
Je laisse la parole à Quentin.
Ok, donc Picasoft, c'est une association qui a été créée il y a à peu près 3 ans, qui globalement défend, on va dire, la culture libriste. Donc comme l'a expliqué Stéphane, la culture libre ou libriste, c'est d'un côté évidemment la défense des logiciels libres, des logiciels qui garantissent les libertés fondamentales des utilisateurs de pouvoir utiliser le logiciel, le modifier, regarder ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc ça, c'est le logiciel. Mais pas seulement, c'est aussi la liberté de la connaissance, du partage de la connaissance. Donc ça va dans le sens de ce que dit Stéphane avec, par exemple, son livre Trace. Ça va aussi dans le sens de la monnaie libre dont on parlera sûrement tout à l'heure. Et donc plus généralement, on fait de la sensibilisation autour de ces sujets. Mais on fait aussi des ateliers pour apprendre aux gens, bah, par exemple, qu'il existe des alternatives au service des grosses structures comme Google, Facebook et compagnie. Et on fait aussi pas mal de techniques en interne, puisqu'on a une infrastructure et on propose des services libres pour montrer l'exemple et qu'il est effectivement possible d'avoir un monde qui n'est pas totalement centralisé sur quelques services. Mais on pourra en reparler.
On nous forme depuis très jeune à les logiciels propriétaires. Microsoft est présent dans tous les établissements scolaires, au lycée, au collège, etc. Pourquoi aujourd'hui sortir des logiciels propriétaires? Pourquoi sortir des choses proposées par Google, par Facebook, par Microsoft? C'est quoi l'intérêt?
Eh bien, en fait, ça pose un certain nombre de problèmes qu'on ne va pas pouvoir détailler entièrement ici. Par ailleurs,
en une heure.
j'en profite pour faire une petite pub jeudi soir, donc le jeudi 4 avril. Il y a une conférence à ce sujet qui est à l'UTC qu'on fait à 18h30, voilà, si vous voulez plus d'informations. Mais globalement, l'idée, c'est que ce qu'on appelle les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple
et
Microsoft, c'est ça. Donc, les logiciels propriétaires, c'est des logiciels dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Si vous voulez, c'est comme si on vous amenait un plat à manger en n'ayant absolument aucune idée des ingrédients. Donc, d'une part, ça pose un problème, c'est-à-dire que si jamais il y a un ingrédient que j'aime pas dedans et que j'aimerais remplacer, bah, j'ai pas la recette de cuisine, donc je peux pas le refaire, ce qui fait que je suis obligé de manger ce qu'on m'amène, sans que ça me donne aucun pouvoir, je suis un simple consommateur. Ensuite, ça pose aussi des problèmes par rapport à l'innovation, c'est-à-dire que quand Google crée un logiciel, alors même si c'est un logiciel de très bonne qualité, il garde absolument tout ce qui aurait pu faire avancer l'intelligence collective et le savoir collectif, ce qui fait que si une petite entreprise veut se lancer dans quelque chose, et bah, bien souvent elle doit tout redévelopper de zéro, en l'absence de logiciels libres en tout cas, donc c'est un frein à l'innovation. Et en plus, en agissant comme des gigastructures, ils ont tendance à absorber toutes les petites startups qui se créent et du coup à récolter l'ensemble de l'innovation et à la mettre sous licence propriétaire.
Pour créer de l'argent en fait, concrètement.
Exactement, pour créer de l'argent, oui, puisqu'évidemment c'est des entreprises dont le but est de faire de l'argent. Et aussi, donc un problème qu'on pourra peut-être aborder plus tard, mais c'est le problème des données personnelles. Il faut savoir que ces entreprises, en général, proposent des services qui sont d'un point de vue financier pour l'utilisateur, et l'utilisateur paye de ses données personnelles. C'est quand même les premières capitalisations boursières au monde, et pourtant, elles proposent des services qui sont gratuits, ont des dizaines de milliers d'employés, des centaines de data centers, des centaines de milliers de machines, sans doute. Et donc, en fait, leur principal modèle, c'est 95% revenus issus de la publicité, qui sont issus de la vente de données personnelles, donc sur le dos des utilisateurs. Et juste pour préciser, c'est pas seulement une question de vie privée individuelle, c'est une question qu'en agrégeant un volume absolument considérable de données, ces entreprises peuvent prédire, enfin faire des prédictions sur les tendances du marché à l'échelle mondiale, des choses que nous, on est incapables de faire, et par là même, créer des tendances.
Influencer.
Okay. Et du coup, elles ont la puissance parfois supérieure à celle d'un État, ce qui pose des problèmes aussi sociétaux.
Donc du coup, elles peuvent nous faire changer nos habitudes de consommation et également de vie, quoi.
Exactement. À partir du moment où tout le monde utilise ces produits, eh bien, eux, ils peuvent simplement faire un changement que tout le monde va être obligé d'accepter, puisque en l'absence d'alternative et avec la dépendance, donc ils s'efforcent qu'on soit très dépendant à ces produits, eh bien voilà, ils font un changement, on l'accepte, ça rentre dans nos modes de vie, du coup ça peut complètement modifier nos modes de vie, en effet.
À l'époque de la création de Scénarii, vous avez déjà un petit peu cette idée-là, on n'imaginait pas que toutes nos données aient pu être compactées, utilisées, et ensuite pour nous vendre des produits. Parce que c'était il y a 20 ans, du coup,
ouais.
Il y a 20 ans, c'était un peu les balbutiements d'Internet,
c'est
presque.
Donc on avait effectivement ça nous rajeunit. Non, ces questions-là n'existaient pas du tout. D'ailleurs, donc on a commencé à créer Scénarii en 1999. Les premières versions utilisables, etc. C'était voilà début de 2000-2001.
C'était vraiment l'internet du grand public. C'était en 95 quoi pour simplifier.
Ça, ouais, c'est là où, bah, à l'UTC, c'est les histoires que je raconte aux étudiants de Picasso pour les faire remonter dans le temps, mais effectivement, mon premier mail, moi je suis arrivé en 94, j'étais étudiant aussi, et effectivement, le premier mail, je crois, est arrivé à peu près en même temps, on a commencé à l'utiliser lors de nos premiers Erasmus, voyages Erasmus, etc. Donc c'était vraiment, ouais, le tout début, je me souviens, c'est en GI1 que la première fois j'ai vu un navigateur Mosaïque à l'époque, etc. Donc. Et donc non, on n'avait pas du tout ces questions-là autour des scénarii et même en fait les premières valorisations, enfin la première tentative de valorisation qu'on a fait avec scénarii était la création d'une entreprise, donc pas du tout avec du code. Différentes raisons, mais on a choisi dans un second temps, donc en 2004, si ma mémoire est bonne, de libérer le code et d'aller sur un autre modèle économique.
Du coup, le fait de libérer le code, c'est pourquoi ? C'est pour que le savoir soit partagé, pour que le travail soit partagé aussi, parce que du coup, parfois, on a un peu moins de moyens. Là, si on le met à disposition, les gens peuvent s'en emparer et également faire évoluer le projet. C'était quoi le premier but de cette libéralisation du code ?
Alors, en fait, le premier objectif qu'on partageait tous, là, je crois vraiment tous les gens qui avons participé à la création de ce projet, c'était que ce qu'on voulait, c'était qu'il y ait effectivement une diffusion et un usage maximal. Donc ça, c'était à peu près acquis. On n'avait pas d'ambition financière ou de choses comme ça particulières. C'était vraiment ça. Et en fait, à un moment, ça nous a semblé la bonne solution. D'abord pour des raisons juridiques. Alors, c'est pas forcément, on s'y attend pas forcément. Mais en fait, comme on travaille depuis l'université, qu'on travaille avec des utilisateurs qui étaient des entreprises privées, des gens qui contribuent au développement, qui étaient des individus, des universités, des entreprises privées. En fait, à chaque fois qu'on voulait faire un truc, eh bien, on avait en face de nous des juristes, ou à côté de nous, pardon. Enfin bref, il y avait des juristes qui traînaient autour et qui avaient à chaque... Enfin, en gros, on avait l'impression qu'à chaque fois qu'on voulait bouger un petit doigt, il allait falloir réécrire des tonnes de trucs. Donc au bout d'un moment, on a dit « Ok, si on met tout en libre et que c'est au milieu, alors tout le monde peut travailler ensemble ». Et là, les juristes ont dit, bah ouais, on a l'impression, on a dit, ok, donc on fait ça, et nous, maintenant, on s'occupe de ce qui nous intéresse, avancer sur le code, développer des usages, etc., et on arrête de s'embêter de savoir avec qui on peut bosser, comment, sous quelles conditions, à qui appartiendront des trucs qui n'existent pas dans 10 ans, qui gagnera de l'argent qui n'existe pas, etc.
Donc là, vraiment le plus simple pour être libre dans le sens liberté, c'est d'ouvrir, en fait, ce code, et cette, pour pas qu'il y ait, du coup, il y ait de propriété industrielle. Du coup, il n'y a pas de propriété industrielle sur la base de scénarii.
Alors, en fait, non, on peut, j'imagine, je ne suis pas un spécialiste juridique, hein, donc, mais j'imagine qu'on peut le poser ainsi. Donc, il y a une propriété intellectuelle, donc le code appartient effectivement
à
un certain nombre de créateurs, aux créateurs avec des X et des S, hein, donc aujourd'hui un collectif, en fait. Mais effectivement, il y a une licence qui est donnée de ces créateurs à tous les gens du monde pour utiliser ce code, pour en faire eh bien ce qu'ils veulent. Et là, effectivement, hein, vous aviez commencé en disant que ce n'était pas la même liberté que la... Mais en fait, si, on retrouve ça. C'est-à-dire que c'est vraiment cette idée de pouvoir autoriser les gens à faire ce qu'ils veulent avec ces éléments qui sont effectivement des morceaux potentiels de développement industriel.
Comment on fait pour gagner sa vie dans le logiciel libre ? En plus, vous mettez vos cours en libre accès sur Internet. Alors, du coup, on n'a même plus besoin d'un professeur. Il suffit de se connecter et puis de suivre vos cours sur Internet. C'est quoi la valeur ajoutée pour vous ? Comment vous pouvez vivre au quotidien ? Alors, parce qu'on imagine qu'il faut bien payer ce savoir.
Moi, j'ai évidemment la chance d'être employé à l'UTC, donc la question de ma survie au quotidien ne se pose pas, parce que j'ai mon salaire. Sur les cours qui n'ont plus besoin de profs, bah, à un moment, j'ai espéré en partie ça, hein, pour me libérer du temps. Ça ne marche pas parfaitement. Voilà. Donc effectivement, il faut bien voir qu'à un moment, le support est ce qu'on libère, et je vais faire le parallèle avec le logiciel libre et l'économie autour de scénarii, mais ce qu'on libère à un moment, c'est des ressources, donc typiquement des supports de cours. Mais par contre, typiquement, bah, l'apprentissage, ça ne se limite pas à avoir accès à ces ressources. Sinon, aujourd'hui, avec Internet, tout le monde aurait un niveau équivalent à celui des meilleurs profs du monde, puisque à peu près toute l'info est disponible. Voilà, le transfert ne se fait pas aussi simplement, en attendant que les transhumanistes aient fini leur boulot. Voilà, bon, bref.
De se mettre une petite disquette dans le cou, ouais. Et puis, comme dans Matrix, de pouvoir apprendre à conduire un hélicoptère. Quoi.
Ouais. Mais donc, du coup, en attendant, bon, voilà, on a encore un job. Et si on fait le parallèle avec l'économie de scénarii, là, je trouve qu'il y a vraiment un exemple très, très intéressant. Donc, en fait, scénarii a été, on va dire, transféré. L'économie de scénarii est aujourd'hui gérée par une entreprise qui s'appelle Kélis, qui est une entreprise qui doit avoir une quinzaine de personnes, qui existe depuis 2004. J'ai essayé de ne pas dire trop de bêtises, donc qui est composé de beaucoup d'anciens anciens UTC1, mais pas que, qui est une SCOP, donc une structure coopérative. L'entreprise appartient à ses salariés, donc ce n'est pas un modèle start-up. Et c'est une entreprise qui fonctionne très bien, donc 2004-2019, c'est ça, ça fait 15 ans, et qui fonctionne très bien, en fait, sur une économie du service, c'est-à-dire que scénarii est là, n'importe qui peut l'utiliser, le mobiliser, mais eux ont un savoir-faire qui fait qu'ils vont accompagner l'ensemble des utilisateurs potentiels, enfin, pas l'ensemble, justement, pardon, une partie des utilisateurs potentiels
qui aura besoin.
Exactement, qui ont un besoin plus spécifique, plus professionnel, plus rapide, etc. Et puis, il y a une partie des utilisateurs qui composent d'autres éléments de la communauté qui vont se débrouiller sans faire appel à cette société ni à aucune autre. Et du coup, peut-être qu'ils iront moins loin, peut-être qu'ils iront moins vite, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, il y a cette possibilité de faire avec ou sans.
Comment vous avez été contacté par le groupe d'étudiants, là, les 6 étudiants de l'UV Séminaire Développement Durable? Comment ils vous ont contacté pour participer à ce séminaire, enfin plutôt à cette semaine de la semaine étudiante de la durabilité? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Tout simplement, ils nous ont expliqué que dans pas mal d'autres écoles d'ingénieurs, il y avait cette semaine qui était très présente et très développée, et que c'était un peu dommage qu'à l'UTC, on n'en profite pas, dans la mesure où il y a beaucoup d'assos qui s'intéressent à ces sujets, en fait, hein, de développement durable, de manière assez large. Et donc, simplement, ils voulaient essayer de faire en sorte que les associations collaborent, ce qui est parfois le cas, mais les gens ont du mal à se fédérer, si vous voulez, parce que on a tous nos projets, c'est pas évident, on a déjà du mal à mener au bout l'ensemble de nos projets. Donc simplement, ils nous ont envoyé un mail en nous disant, venez, on fait quelque chose ensemble, on fait une énorme semaine avec plein d'événements et on montre aux gens que c'est possible d'agir ensemble pour le développement durable.
Ils nous ont envoyé un message en nous disant, l'objectif de cette semaine est de mobiliser plus que jamais les étudiants, les associations, les enseignants, l'administration, afin de construire un avenir souhaitable pour tous, tous ensemble. Du coup, c'est un avenir souhaitable, du coup, le libre. Est-ce qu'on ne sera pas obligé d'utiliser des iPhones, d'utiliser Facebook, ad vitam aeternam? Est-ce que vous pensez que, du coup, on va y arriver à cette libéralisation un petit peu des logiciels et de la vie en général? Notamment par les monnaies, on pourra parler après des monnaies.
Là, je pense qu'effectivement, on est très content à Picassoft d'être intégré à ce mouvement parce que le lien entre développement durable, écologie et logiciel libre n'est pas forcément évident. Or, effectivement, vu de l'extérieur, or, pour nous, on va dire, et pour les acteurs du libre en général, il l'est. D'ailleurs, les prochaines rencontres du logiciel libre à Lyon s'appellent Ecologeek, je crois, quelque chose comme ça. Donc, va s'ouvrir par une... Ou en tout cas, il y aura une conférence de Framasoft sur justement le lien entre les deux. Et pour nous, il y a vraiment un élément essentiel, c'est-à-dire que l'écologie ne se limite pas et le développement durable, en tout cas, ne se limite pas à la question du climat, etc., même si ces questions sont évidemment fondamentales, puisque survivre, c'est quand même nécessaire, mais pas forcément suffisant, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, la question de comment demain on est soumis à des contraintes extérieures, on pourrait parler peut-être d'écologie du numérique ou d'écologie du milieu numérique, et ces questions-là, aujourd'hui, sont effectivement... associé à ce dont on parle, c'est-à-dire le pouvoir qui va être donné à des très grosses entreprises, celui qu'on a nous en tant que citoyens d'y résister ou pas, etc.
C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Quand on prend sa voiture, on sait qu'on pollue, hein, on voit l'échappement s'évacuer, mais par exemple quand on envoie un mail ou quand on est sur Facebook ou qu'on stocke quelque chose à droite à gauche, on ne se rend pas compte de notre impact écologique. Comment on peut faire changer un petit peu cette vision-là en se disant, c'est vrai que quand on met nos données dans un cloud, en fait il y a des serveurs qui sont en train de fonctionner à l'autre bout de la planète, du coup, qui produisent de l'énergie, souvent de l'énergie fossile, souvent c'est du charbon maintenant. Du coup, comment on peut faire prendre conscience aux gens en leur expliquant que ce qui n'est pas matérialisable aujourd'hui, ça a un impact ailleurs? Est-ce que vous avez une réponse?
Tout simplement, je pense que le mot cloud a mis beaucoup de confusion dans l'esprit des gens, puisqu'évidemment, on imagine que nos données flottent dans les airs et qu'on peut y accéder n'importe où. Je pense qu'une bonne, enfin, pas définition, mais un bon truc à se mettre en tête, c'est que, en fait, le cloud, c'est tout simplement l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc effectivement, quand on a nos données dans le cloud Google, en fait, c'est des immenses data centers. Les données sont présentes à plein d'endroits dans le monde pour qu'on puisse y accéder très rapidement, etc. Donc juste moi en tant que, enfin pour Picassoft, c'est difficile de parler d'écologie dans la mesure où nous par exemple on a des serveurs qui consomment de l'énergie en permanence. Donc évidemment c'est assez délicat de parler directement d'informatique verte, tout ça c'est des sujets que je ne maîtrise pas particulièrement. Après simplement faire prendre conscience aux gens que ça peut être bien de stocker leurs données chez eux sur un disque dur qui est déconnecté du réseau, qui n'est pas alimenté en permanence.
Sur une clé USB qui est transportable.
Exemple, exactement, alors qu'ils n'en ont pas particulièrement besoin dans le cloud, et leur faire prendre conscience que mettre une photo sur, je ne sais pas, Google Photo, quelque chose comme ça, c'est que la photo est distribuée à 10 endroits dans le monde et qu'elle y est pour toujours, même si un jour elle est supprimée, ce qui prend énormément de place et d'énergie. Par exemple, supprimer ses anciens mails, ce genre de choses, ça c'est des comportements qu'on peut tous adopter facilement.
Il y a un exemple qui est quand même très, très marquant aujourd'hui, on n'est pas des spécialistes de cette question, mais c'est l'exemple de Netflix, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui le développement fulgurant de ce média, de ce moyen de transférer des films, génère aujourd'hui une activité un numérique colossale. Les consommations, je crois, sont aujourd'hui comparables à celles de l'aviation, donc on est dans des choses tangibles, on n'est pas dans des choses abstraites là, beaucoup pour rien, c'est-à-dire pour aller retransférer des tas de fois le même film à des tas d'endroits à chaque fois qu'on va le re-regarder, donc tout ça pour éviter le stockage en le chiffrant, donc c'est-à-dire en utilisant une puissance algorithmique forte pour empêcher la copie. Et donc in fine, si on avait les films chez soi et qu'on se les transférait en peer-to-peer comme on l'a pu l'envisager à un moment, ce coût écologique n'existerait pas. Donc sans faire l'apologie d'autres modes de transmission, néanmoins, si on les met dans la balance écologiquement, on se rend compte que la solution qui marche aujourd'hui, elle pose des problèmes écologiques.
C'est le troc informatique. En fait, le BitTorrent, c'est un peu le troc informatique.
Exactement.
On va écouter un extrait musical. Alors, j'ai choisi un extrait musical, extrait d'un site qui propose des musiques libres de droit. Ça s'appelle aubouddufil.com et du coup, j'ai choisi un morceau plutôt électro. Alors, le nom de l'artiste, je sais pas comment ça se prononce. Made In, peut-être. Et ça s'appelle Synthwave Vibe. Comme quoi, on peut retrouver des morceaux plutôt cool en logiciel libre, enfin en musique libre, et d'ailleurs des morceaux qu'on peut réutiliser hein, si vous avez fait des créations par exemple, je sais pas, des vidéos, ce genre de choses, vous pouvez réutiliser. Il y a un petit, comment ça s'appelle du coup, les petites annotations qu'on peut, Creative Commons là,
ouais,
c'est ça,
mention de la licence, ouais.
Très bien, on écoute. De retour sur l'antenne de Graphite 94.9 www.graphite.net pour parler de cette semaine de la durabilité du 1er au 7 avril. Chaque jour, on aura des invités différents. Aujourd'hui, on est en compagnie de Stéphane Croza et de Quentin Duchemin. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas noté ton nom de famille, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
On parle donc du logiciel libre et du monde libre en général. On va revenir un petit peu sur les monnaies, puisque du coup, cette semaine, il va y avoir une conférence sur les monnaies libres. Qu'est-ce que c'est, les monnaies libres ?
Alors, c'était la semaine dernière.
Dommage.
Pas, on pourra pas revenir dans le...
Ça a été enregistré ? Ça a été capté ?
Absolument. Ça va être bientôt disponible sur Peertube, qui est un équivalent de YouTube libre et décentralisé.
Très bien.
Et probablement sur la Web TV de l'UTC.
De l'UTC, exactement.
Et Et donc, la conférence a eu lieu. En fait, on a fait même un peu plus qu'une conférence. C'était un week-end dans lequel on a fait une conférence au départ où on a une personne, donc Squeak, qui est venue nous présenter les principes. Ensuite, on a fait une après-midi d'atelier. Donc là, on a vu des choses un peu plus pratiques. Et le lendemain, en fait, on a fait un jeu de simulation qui a duré tout le samedi, qui consistait à comparer en fait la dynamique, on va dire, d'une économie sous monnaie dette. J'utilise la terminologie du domaine, c'est-à-dire la monnaie créée par la dette, la monnaie dans laquelle on vit, versus l'après-midi, on a fait la même simulation avec de la monnaie libre.
Donc il faut s'y connaître un petit peu en économie, en comment fonctionne aujourd'hui le monde actuel pour parler de crypto-monnaie ou pas du tout. Est-ce qu'un citoyen lambda, un utilisateur lambda peut très bien s'emparer de la crypto-monnaie? Et puis on connaît évidemment des crypto-monnaies comme du coup l'Ether par exemple, ou
Bitcoin.
Bitcoin le plus connu. Là ça s'appelle la June. Tout le monde peut s'y emparer de ce genre de projet ou il faut être un petit peu geek dans l'âme?
Non, tout le monde peut s'en emparer. Aujourd'hui, la communauté des gens qui sont dans la June n'est pas spécialement geek. Après, voilà, il y a des filiations avec les gens du logiciel libre, pas mal aussi justement des gens du monde écologique, etc. Donc non, il n'y a pas besoin de connaître des choses particulières.
C'est quoi du coup l'intérêt d'avoir une monnaie libre? C'est quoi par rapport à une monnaie comme le Bitcoin par exemple?
Alors en fait, peut-être d'abord avant de comparer avec le Bitcoin, peut-être comparer avec la monnaie qu'on a
actuellement. Ouais.
Et donc justement la première idée, le premier truc qu'il faut piger, c'est ça qui demande peut-être un petit peu de temps au début, mais encore une fois c'est pas très compliqué, je vais essayer de le résumer. C'est qu'en fait la monnaie que l'on utilise nous tous les jours, en fait est produite par la dette, c'est-à-dire que l'argent qu'on utilise pour faire des échanges, eh bien est issu des dettes qui sont contractées auprès des banques centrales, etc.
Donc en gros on offre du temps, c'est ça. En gros si on emprunte sur une durée, et puis la création de la valeur se fait par rapport au temps qu'on va rembourser.
En fait, l'idée, c'est qu'au moment où j'emprunte de l'argent à une banque, en vrai, elle n'a pas cet argent. C'est ça qui est important, c'est qu'elle ne prête pas de l'argent qu'elle a dans ses coffres, elle crée la monnaie qu'elle nous prête. Et donc, à un moment, il y a 100 sur la Terre, ou il y a 100 en euros en tout. Au moment où moi, je vais faire un prêt de 10, eh bien, maintenant, on a 110, en fait. Donc, la création de la monnaie, le fait qu'il y ait des billets qui existent, c'est lié au fait que l'on contracte des dettes.
Quoi, du coup, les banques ne nous prêtent pas de l'argent comparativement avec de l'or ou de l'argent, en vrai?
Eh non, donc ça, effectivement, c'est terminé. Alors,
ils nous prêtent du vent.
Ouais, en fait, ils prêtent pas vraiment. Donc, du coup, ils créent de la monnaie pour qu'on puisse faire des échanges, quoi. C'est vraiment cette idée. Alors, à la base, est-ce que c'est grave? Ben, de toute façon, il faut bien de la monnaie, il faut bien faire des échanges, etc. Donc, on pourrait considérer que c'est pas forcément très grave. Sauf que on s'aperçoit que les banques sont plus, et les banques centrales, a fortiori, la Banque européenne, la Banque américaine, sont plus soumises aux États, sont plus soumises au vote démocratique. Et donc, on se retrouve, en fait, avec un truc qui est quand même, à la base, super important pour les États, hein, qui est la création de la monnaie, tout le pouvoir associé, qui, en fait, a complètement disparu de leur spectre de contrôle, quoi.
Donc, si on fait disparaître cette dette, en fait, il n'y a personne qui est perdant, à part les banques, puisqu'en fait, cette monnaie, elle n'a jamais existé, quoi.
Si on faisait tout disparaître du jour au lendemain, sauf que justement, c'est pas possible, parce que si on faisait ça, on n'aurait plus du tout.
Non, mais si on fait le choix de, je sais pas, d'effacer la dette des pays du tiers-monde, en gros, il n'y aurait pas d'impact dans notre quotidien? Ou il y aurait quand même un impact? Est-ce que du coup, on pourrait moins acheter de nourriture, moins avoir des voitures moins belles, c'est en vrai?
Alors là,
vous
m'emmenez un peu loin sur des questions économiques que je maîtrise pas. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que non, justement, c'est contrairement à ce que peut-être je croyais avant, c'est que si la création de la monnaie est dépendante des banques, eh bien en fait, si on effaçait les dettes quelque part, il y aurait plus de monnaie. Et on l'a vécu nous le matin dans le jeu, où à un moment en fait, on avait un peu arrêté de faire des dettes parce qu'on avait marre de se faire saigner et de payer des intérêts. Mais en fait, on s'est retrouvé à ne plus pouvoir faire d'échanges. Donc en fait, moi, ce que j'en ai retenu, en tout cas, c'est que le principal problème est peut-être même pas tant la question des intérêts, mais la question du pouvoir qui est donné aux banques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles donnent pas de la monnaie à telle ou telle personne, et ben, en fait, elles rendent possible les échanges. Donc, en fait, elles ont la maîtrise totale de la dynamique économique. Enfin, totale, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, une maîtrise très forte de la dynamique économique.
Donc là, le but de la monnaie libre, c'est de remettre le citoyen, l'utilisateur, au cœur de cette monnaie.
C'est exactement ça. Hein, c'est exactement ça. Partant de ce constat, encore une fois, le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tout comme d'un côté on va avoir les GAFAM qui vont contrôler en quelque sorte la façon dont on va utiliser Internet, qui vont décider de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pas, de comment, etc. Là, le constat est à mon sens un petit peu le même, c'est-à-dire qu'on a les banques, enfin une petite pas beaucoup d'organisations, un petit nombre d'organisations qui décident de la façon dont on organise nos échanges. Eh bien, l'idée, là, c'est justement de créer une monnaie qui permette aux citoyens de se rapproprier ces échanges et donc de décider, eux, et là, on fait le lien avec le développement durable et avec l'écologie, de décider comment est-ce qu'ils vont dépenser cet argent, le mobiliser, le donner et quel type d'économie ils vont construire, en fait, sans qu'elle nous soit, en quelque sorte, imposée ou en tout cas en faisant en sorte qu'elle soit moins imposée.
Comment on fait pour utiliser de la monnaie virtuelle dans l'économie réelle ? Aujourd'hui, pour aller acheter une baguette, comment je peux traduire de l'euro à la June ?
Alors, il y avait deux questions en une. Sur la première, comment on fait... Il y a même trois questions, allez, je les décompose. La première question, comment on fait pour utiliser une monnaie virtuelle dans un monde réel ? Ça, c'est facile. En fait, c'est ce qu'on fait tous les jours avec notre carte bleue. Donc, en vrai, voilà, on va dire depuis qu'il n'y a plus de pièces d'or, au moins. Et puis même les pièces d'or, ce n'était pas forcément très réel. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est déjà le cas. La différence, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pièces et de billets. Il faut un téléphone, voilà. Il faut un téléphone, un ordinateur. Enfin, il faut un ordinateur, éventuellement un smartphone. Et du coup, sur un site, tout simplement, on crée un échange. Donc, je vais décider de créer une transaction, exactement comme un virement bancaire. En fait, voilà, je vais faire encore plus simple. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est des virements bancaires. Donc, des virements, du coup, pas bancaires, des virements de compte
monétaire,
à compte.
Ouais,
voilà, des virements monétaires d'une personne qui possède un compte à n'importe quelle personne qui possède un compte. Alors, du coup, il faut être honnête, pour aller à la boulangerie aujourd'hui, ce serait pas trivial parce qu'il faudrait faire la transaction.
La conversion, voilà. Ouais. Il faudrait acheter de la monnaie avec la monnaie physique pour acheter de la monnaie virtuelle.
Par exemple, ou alors on pourrait aussi, hein, je crois que ça commence à se mettre en place dans des endroits, avoir des billets ou des tickets ou des choses qui permettent effectivement de faire des échanges qui n'ont pas beaucoup de valeur, puisqu'on va pas ils auront évidemment pas autant de sécurité que les billets émis par l'État. Mais on peut avoir des solutions pour faire des échanges rapides sans avoir besoin d'aller faire une transaction sur un ordinateur.
Justement, pour le contrôle, pour la sécurité, c'est l'histoire du blockchain qu'on utilise. Alors, est-ce qu'on peut simplifier le blockchain ? En gros, c'est que cette information est envoyée sur de multiples utilisateurs en même temps pour certifier en fait que cette information existe réellement. C'est ça ?
Parfait.
C'est ça.
Je pense que c'est difficile de faire plus simple, donc c'est très bien. Effectivement, il y a plein.
Donc là, ça utilise cette technologie-là, la crypto-monnaie ?
Complètement. Complètement. Donc effectivement, au moment où je fais un virement, par exemple à Quentin, voilà, je vais lui donner des junes, eh bien, il y a effectivement, ça va prendre quelques minutes, mais il y a tous les ordinateurs qui composent le réseau qui vont enregistrer cette information. Et donc, au bout d'un moment, eh bien, elle sera infalsifiable puisqu'il faudrait aller modifier l'information de tous les ordinateurs. Je simplifie un petit peu, mais ça nous donne l'idée pour arriver à faire croire que je n'ai pas fait ce transfert ou à faire un transfert d'une autre nature.
Vous travaillez sur le blockchain parce que c'est aussi possible pour déposer les droits d'auteur, par exemple. Si on est créateur d'un morceau, on peut le déposer en blockchain et puis au moins, on sait que le morceau a bien été créé par cette personne-là. Est-ce que vous travaillez un peu sur la blockchain, du coup, dans vos recherches respectives ?
Non.
Non. Quentin.
Pas du tout.
Non, parce que ouais, bah parce que
pas le temps
pas,
ou
ouais, pas le temps. Ouais, pas le temps. Non, c'est évidemment un sujet aujourd'hui. C'est évidemment un sujet aujourd'hui passionnant, mais effectivement, c'est pas un sujet dont je me suis emparé ou dont on s'est emparé.
Là, la June, comment on devient utilisateur ? Comment on devient ? Alors, on dit pas mineur, on dit comment on dit chez vous ?
Alors, on l'a appris au week-end, hein, je répète de pas longtemps, mais donc des forgeurs, donc plutôt que de miner la monnaie, hein, donc d'aller creuser dans des mines et supprimer de la ressource, en quelque sorte, hein, le parallèle écologique est intéressant encore une fois, mais on va plutôt forger, c'est-à-dire créer quelque chose.
D'une matière, quoi.
À partir d'une matière, sauf que là, en fait, on va créer à partir de rien. Donc, c'est assez magique, de ce point de vue-là. On crée de la monnaie à partir de rien. Mais encore une fois, c'est ce que font les banques tous les jours. Donc, c'est une magie qui est connue. Les sorts sont connus. Alors, pareil, il y a plusieurs niveaux de questions. En fait, on peut commencer à utiliser la June en se créant un compte sur un
portefeuille numérique.
Exactement, ouais. Voilà, un portefeuille. Donc, ça se fait en 3 minutes. Et ensuite, à partir de ce moment-là, il faut juste qu'il y ait de la June dessus. Mais si vous créez un compte, je vous fais un transfert en June, vous avez de la June, vous pouvez acheter des choses, c'est parti.
Comment on forge du coup ?
Alors pour forger, en revanche, il faut devenir membre de la toile de confiance. En fait, comme on l'a dit tout à l'heure, la blockchain est répliquée sur différents ordinateurs. Et pour que, y ait pas quelqu'un qui se dise, moi je mets plein d'ordinateurs et du coup je vais contrôler la duplication de la blockchain, les versions de la blockchain. Eh bien, l'idée c'est que pour avoir le droit d'avoir une version officielle, il faut être membre d'un réseau de membres qui vont se certifier les uns les autres. Et donc concrètement, aujourd'hui, pour devenir membre de ce réseau, eh bien, il faut avoir 5 membres existants déjà dans ce réseau qui vont venir certifier cette personne. Ça ne suffit pas tout à fait comme condition, je la simplifie un petit peu, mais voilà, il suffit qu'il y ait 5 personnes qui certifient une autre personne pour qu'elle-même fasse partie du réseau.
Donc si demain j'ai beaucoup d'argent dans le monde réel là, et que je vous ramène beaucoup d'argent et que je donne de l'argent à des gens et qu'ils veulent me, doivent me certifier pour un peu modifier du coup cette certification là, vous y avez réfléchi ou pas du tout? Est-ce que la corruption est possible dans, dans le monde de la crypto-monnaie?
Alors, ça certainement, mais en revanche, pas sur ce scénario-là. C'est-à-dire que si demain, quelqu'un veut être membre du réseau, en fait, il suffit qu'il demande, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de corrompre qui que ce soit, il suffit qu'il rencontre 5 personnes qui sont prêtes à le certifier. Et la seule raison pour laquelle on certifie quelqu'un, c'est juste qu'en fait, on va identifier que c'est une personne qui n'a pas déjà un compte. Donc en fait, on va juste s'assurer que chaque personne qui fait partie du réseau a un seul compte, et donc c'est ce qui fait qu'il ne pourra pas prendre le pouvoir à la fois sur, on n'en a pas encore parlé, sur le dividende universel, la création de la monnaie, et sur les ordinateurs. Donc on est sûr que le pouvoir va rester équitablement réparti entre les gens. Mais quelque part, ça peut être quelqu'un de très méchant, que j'aime pas, avec des idées, mauvaises idées politiques, enfin, des idées qui me conviennent pas, ou effectivement, quelles qu'en soient les raisons, il n'a pas besoin de me corrompre. Eh bien, si j'ai la capacité de le connaître, je sais pas, c'est mon voisin, je sais qu'il n'a pas de compte, etc., je vais le certifier.
C'est quoi cette dividende universel, cette DU?
Alors, C'est une des idées intéressantes qui vient avec, avec la June, c'est que donc, la création monétaire, typiquement, tout à l'heure, vous parliez du Bitcoin. Dans le Bitcoin, eh bien, les Bitcoins sont créés par les mineurs au moment où ils arrivent à remporter, en quelque sorte, une sorte d'épreuve donc, qui leur donne le droit d'inscrire dans la blockchain, et ils gagnent un petit peu d'argent à ce moment-là. C'est ce qui fait notamment qu'il y a cette escalade à la puissance, avec les conséquences écologiques que ça a.
Donc là, c'est en gros les fermes à Bitcoin. Le but, c'est d'avoir des très gros ordinateurs qui minent beaucoup, beaucoup de données en même temps. Mais donc qui consomme énormément d'énergie.
C'est ça. Dans le Bitcoin, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une sorte de course. Il y a le premier qui va réussir à résoudre un certain problème avec ses ordinateurs va avoir le droit d'écrire dans la blockchain et va gagner quelques Bitcoins. Donc du coup, bah, quand on est deux au début, on prend un tout petit ordinateur, puis celui qui gagne la course, il gagne. Mais évidemment, il y en a un qui va acheter un deuxième ordinateur, puis l'autre un plus gros, puis un plus gros. Et exactement comme l'escalade dans le domaine de l'armement, par exemple, eh bien aujourd'hui, effectivement, il y a des fermes entières, des hangars entiers remplis d'ordinateurs qui servent juste à calculer un truc, mais dans le seul objectif d'aller plus vite que le voisin d'en face, quoi. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt concret, donc là, on dépense vraiment de l'énergie pour rien du tout. Alors, mais par contre, ça permet d'assurer en quelque sorte que personne va prendre le pouvoir, puisque pour prendre le pouvoir, il faudra avoir une ferme d'ordinateurs tellement grande, tellement plus forte que tous les autres, que c'est ce qui maintient cet argument de décentralisation, de pouvoir décentralisé. Et donc dans la June, c'est un autre système qui a été pris. Donc comme j'ai dit, c'est celui qui est basé sur la toile de confiance. De toute façon, chaque personne ne peut avoir qu'un compte. S'il a plusieurs comptes, c'est qu'il a menti en fait et qu'il a réussi à faire croire qu'il avait plusieurs personnalités. Qui s'est fait passer pour plusieurs personnes dans le réseau, mais en quelque sorte c'est très très difficile, et puis c'est très difficile de le faire de façon massive, donc il y a forcément...
Là aujourd'hui c'est très difficile parce que du coup on est à la création un petit peu de ce système-là, mais si demain il y avait énormément d'utilisateurs, les utilisateurs vont mourir, du coup comment ça va se faire? Est-ce qu'on pourra faire comme à Paris, faire voter les morts, du coup faire miner les morts, ça sera possible ou pas?
Alors en fait chaque certificat est valable 2 ans, donc en fait à partir du moment où une personne meurt, son compte va expirer au bout de 2 ans. Pour que ça perdure, il faudrait que quelqu'un continue de certifier, enfin que 5 personnes au moins, continuent de certifier que cette personne est vivante. Donc encore une fois, ce qu'a priori, ils n'ont pas le droit de faire et ils ne doivent pas faire.
Où va l'argent quand les gens meurent? Où va les crypto-monnaies?
Eh bien, si jamais elle n'a pas été transférée avant la mort de la personne, elle reste sur le compte et donc elle ira nulle part. Mais du coup, on peut peut-être parler d'un autre petit élément. Je me rends compte qu'on n'a probablement pas parlé du DU, du dividende universel. J'ai dû répondre à une autre question à la place. Donc, il y a une règle dans la June qui est une règle d'inflation, c'est-à-dire que la création monétaire fait que petit à petit, eh bien, la monnaie se détruit en quelque sorte. Donc, en fait, même si quelqu'un garde de l'argent sur un compte, eh bien, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, cet argent aura plus du tout, aura plus aucune valeur.
C'est pour éviter la spéculation?
Je pense que ça participe, ouais, à pareil, je n'ai pas forcément les compétences économiques pour valider ça totalement, mais ça participe à lutter contre la spéculation. C'est-à-dire, en tout cas, si vous gardez des junes aujourd'hui, vous êtes sûr d'une chose, c'est que dans 10 ans, ça ne vaudra plus grand-chose, quoi. Donc ça, le but est plus de favoriser l'échange que la capitalisation et le stockage.
L'économie circulaire, quoi, en gros. Remettre l'argent dans l'économie.
Exactement.
Et pas...
Exactement.
Du coup, d'un point de vue administratif, d'un point de vue UTC, on imagine que les ingénieurs sont plus tournés vers l'argent, qui le but c'est de devenir cadre, gagner beaucoup d'argent, travailler pour des grosses entreprises. Est-ce que du coup vous êtes plutôt aidé dans ce genre de recherche par l'université ou est-ce que vous êtes un peu marginalisé en disant c'est des gentils fous et puis on verra dans quelques années?
Je pense ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'en tout cas, il n'y a pas, à ma connaissance, il y a quand même très très peu d'ingérence de l'UTC sur les travaux des chercheurs. Évidemment, je ne pense pas que ça fasse aujourd'hui partie des sujets peut-être prioritaires ou qui vont être mis peut-être particulièrement en avant par l'UTC. Mais en même temps, on a plutôt à Picassoft, d'une façon générale, là pas sur la monnaie libre, qui est un sujet vraiment très très récent, mais on a plutôt à Picassoft, je trouve, un soutien et, de l'UTC en général, donc de Costec en particulier, en tout cas, qui est membre de l'association. Donc ouais, je pense qu'il y a quand même une vision, je pense, bienveillante globalement des gens de l'UTC sur ce qu'on fait, quoi.
Il y a une notion monétaire, est-ce qu'on peut dire combien ça rapporte, ou est-ce qu'il y a une rentabilité du coup de ce genre de recherche, directement ou indirectement? Parce que par exemple, si on crée une start-up, genre je pense à celui qui a créé la start-up pour les réveils olfactifs, en gros, lui, son but, c'est de vendre le maximum de réveils. Est-ce que vous, quand vous créez une start-up, c'est quoi la valeur ajoutée? C'est comment on peut, puisqu'on est quand même dans un système capitaliste, le but, c'est d'avoir une rentabilité directe. Là, aujourd'hui, est-ce qu'on vous demande ce genre de choses ou pas du tout? Comment on quantifie du coup la réussite ou la non-réussite d'un projet?
Alors encore une fois, la bonne chose à l'UTC, enfin dans le monde de la recherche en général, dans l'UTC en particulier, c'est que ce genre de critère n'est pas nécessaire à nos travaux. C'est-à-dire que si effectivement il y a des projets qui affichent de la rentabilité, etc., ils vont pouvoir se valoriser sur ce terrain-là, mais ce n'est pas une condition nécessaire. Donc effectivement, aujourd'hui, il est possible de justifier des travaux de recherche en expliquant que ça a un impact sociétal, que ça va effectivement modifier des choses à moyen terme, etc. Et on n'est pas obligé de quantifier ça économiquement en disant que ça fait gagner tant d'argent en tant que tel. Et ça, c'est vraiment pas une difficulté que je rencontre. Alors après, peut-être aussi que c'est pas la majorité des gens à l'ITC qui ont ce genre d'approche. Donc peut-être que si on était 80%, ça poserait plus de problèmes à l'institution. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, à mon échelle ou à l'échelle de ce qu'on peut faire avec les étudiants, c'est sûr que ça pose aucun souci, quoi.
On va refaire une courte pause musicale avec un extrait. Cette fois, on n'est pas dans un son libre, c'est Korn. Ce morceau s'appelle Good God et on se retrouve juste après. C'est toujours la matinale et on est ensemble encore pendant une vingtaine de minutes.
Just to let me know, never.
À l'instant, c'était Korn sur les ondes du 94.9 pour bien vous réveiller ce matin. N'oubliez pas également qu'on est disponible sur internet www.graphite.net. Maintenant, on est disponible sur les smartphones, Smart TV, sur vos téléphones, un peu partout. Et on parle encore de cette semaine étudiante de la durabilité avec aujourd'hui le monde du logiciel libre. On va revenir assez rapidement sur la monnaie puisque tu voulais faire un petit complément sur cette histoire de dividende universel, c'est bien ça ?
Oui, en fait, je voulais juste préciser que tous les membres...
L'intérêt, oui. En fait, de la monnaie, quoi.
Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, alors déjà, c'était juste pour revenir sur cette histoire de création monétaire. Effectivement, quand la banque crée de la monnaie, donc la donne à quelqu'un, entre guillemets, la personne va ensuite lui rendre la monnaie, donc il y a une destruction de la monnaie, donc il y a un équilibre, mais elle demande aussi des intérêts. Et donc ces intérêts, il faut bien qu'ils soient créés par quelque chose. Donc ils vont être créés par une autre dette qui elle-même demandera des intérêts, etc. Donc en fait, on entre dans une spirale infernale, comme disait Stéphane tout à l'heure, une espèce de course en avant où il faut avoir de plus en plus de monnaie pour rembourser les prêts, etc. Donc la monnaie libre veut répondre à cette problématique déjà en faisant de la création monétaire pas une dette. Et ça se fait par le système du dividende universel. C'est-à-dire que chaque personne, tous les jours, chaque membre de la toile de confiance, va créer un certain pourcentage de la masse monétaire totale, on va créer de la monnaie. Donc on est tous co-créateurs de la monnaie. Donc en soi, on a tous le pouvoir, entre guillemets, sur la monnaie.
Est-ce qu'on peut en vivre de cette création automatique ?
Eh bien, ça, tout dépend de la valeur qui est donnée à chaque june. C'est-à-dire qu'ensuite, c'est les gens qui, dans leurs échanges commerciaux, vont décider de la valeur qu'ils donnent à un june. Donc finalement, ça peut très bien être simplement comme un revenu universel d'existence. Ou alors, c'est pas du tout suffisant pour en vivre. Ça dépend de ce qu'en font les membres.
Comment on donne une valeur à la chose qu'on va... Je sais pas, genre j'achète une voiture, je sais pas combien ça coûte la création d'une voiture. Comment l'utilisateur va pouvoir donner une valeur en fait au produit ou au service qu'il va avoir ? Est-ce qu'il faudra définir ça ? Par exemple, pour votre livre, du coup, il était disponible en crypto-monnaie. Comment vous avez défini qu'il était à ce prix-là ?
Alors en fait,
on dit un prix déjà. Ouais, c'est un prix. C'est.
Ouais, bien sûr. Et je l'ai mis. Donc il y a un site qui s'appelle Géchange. Et donc je l'ai mis sur Géchange de mémoire.
10 junes, c'est ça ?
Non. Oh non, je l'ai mis à 256 junes.
10 junes, c'est un dividende universel actuellement.
Okay. Ouais. 10 junes, c'est un dividende universel. Donc effectivement. Alors pourquoi ça ? Donc pourquoi 256 ? Ça c'était pour voilà, pour rigoler. Mais pourquoi quelque chose de cet ordre-là ? Parce qu'en fait, j'avais regardé un petit peu des choses à côté et j'avais déjà acheté un livre, par exemple moi, que j'avais payé à peu près entre 2 et 300 junes. Donc je me suis dit, bah si je vends un livre avec ce que je vais récupérer en junes, je vais pouvoir racheter un autre livre. Je vais pouvoir, par exemple, il y a des locations de vacances ou des choses comme ça, c'est autour de 2-3 000 junes. Donc je me suis dit, ok, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'arrive à vendre peut-être 20 ou 30 livres pour arriver à faire ça. Donc je me suis fait une sorte de référence comme ça dans ma tête. Mais après, voilà, il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans l'économie en junes qui tranchent un peu avec ce qu'on est habitué à faire. Et il y a plus d'échanges aussi entre les gens, c'est-à-dire d'échanges de discussions. Donc il y a effectivement des gens qui vont pouvoir mettre des choses à prix libre. Il y a des gens qui vont payer plus cher que le prix qui est affiché. On trouve des comportements qui ne sont pas forcément usuels avec la monnaie classique, parce que le rapport justement à la monnaie, il est changé, quoi.
256, c'est un peu un clin d'œil aussi d'informaticien, en fait, c'est ça ?
Oui.
Parce que on peut rappeler du coup tout ce qui est 256, pourquoi vous avez utilisé ça ?
C'est 2 puissance 8.
Oui.
Dans le système en fait, dans le système hexadécimal, c'est 100 par exemple, c'est ça, c'est toutes ces valeurs-là, etc.
En binaire.
En binaire, coup, c'est 100 millions ? 1 milliard ?
Ça va être 1-1 suivi de 7-0, si je dis pas.
Ouais, j'espère que c'est pas des nicoles, là, en pleine radio, on n'a pas encore mangé. Bon, c'est 2 puissance 8. Donc, effectivement, les informaticiens ont tendance à compter en puissance de 2 ou de 16, ou enfin de puissance de 2.
Donc, voilà, en plus, c'était un private joke pour les informaticiens. Ouais. Quoi. Et vous en avez vendu beaucoup de ce livre à ce prix-là ?
Alors, donc non, mais plus par choix, parce qu'en fait, donc j'en ai mis 3 en vente. Je les ai vendus dans l'heure, donc effectivement, ça, voilà, ça s'est bien vendu en june. Mais j'en ai pas vendu plus, bien parce que moi, les livres, ils m'ont coûté en euros. Il a fallu en plus que je prenne en charge les frais de port. Et donc, effectivement, à un moment aujourd'hui, pour le dire comme ça, j'ai peut-être pas forcément de choses suffisamment de choses à acheter en June pour aller me constituer en quelque sorte un capital en June. Mais c'était pour moi aussi une façon de tester, et je sais que si demain j'ai quelque chose à acheter, je sais pas moi, pour 2000 June qui m'intéresse, bah quelque part je sais que ça fait une dizaine de livres, je les ai, je sais que je peux les vendre, si je peux les vendre en une heure, je sais que je peux acheter quelque chose de l'autre côté. Mais j'ai pas forcément encore ce dont j'ai besoin de l'autre côté, mais voilà, c'est...
Là aujourd'hui, du coup, on peut transférer les June en euros ou en autre monnaie ou pas du tout? C'est possible?
Non.
Non, aujourd'hui non.
En fait, c'est comme c'est une monnaie d'échange, bah, faut trouver quelqu'un qui veut vous vendre des euros en quelque sorte. Mais donc, la réponse n'est pas tout à fait non, puisque sur Géchange, parfois, il y en a qui mettent en vente justement un billet de 50 euros en disant, voilà, donc c'est pas vraiment un échange, mais ils disent, voilà, moi je vends un billet de 50 euros. Souvent, c'est sur des enchères, donc comme ça, les gens enchérissent en June. Ça, d'une part, ça permet de faire un peu de transfert, et puis ça permet aussi de répondre un peu en quelque sorte à la question, combien vaut une June? Bah, à cet instant T, dans ces conditions-là,
50
ça,
euros.
Voilà. Enfin, si potentiellement,
c'est
voilà.
Quoi? Il y a combien d'utilisateurs aujourd'hui de cette crypto-monnaie?
Il y en a un peu plus de 1700 ouais. Qui sont dans la toile de confiance, c'est-à-dire qui sont membres et ensuite.
Donc qui ont été actés, enfin qui sont certifiés par 5 utilisateurs.
Quoi. Exactement, tout à fait.
Comment ça s'est passé la première fois pour. Avant qu'il y ait 5 utilisateurs? Il a fallu les 5 créateurs qui ont.
Ouais,
c'est
ouais,
ça. Qui ont enfanté 5.
C'est ça, tout à fait. Tout à fait.
Et du coup, aujourd'hui, ces utilisateurs, ils sont plutôt français. Elle vient d'où d'ailleurs, cette monnaie? Elle a été créée où?
En Occitanie, je crois.
Alors,
en France, ok.
Ouais, donc en France, en tout cas. Donc Stéphane Laborde, qui est le théoricien de la monnaie libre, est français. Je crois que c'est effectivement en Occitanie, il y avait ils étaient très dynamiques. Je crois que les développeurs sont plutôt de la région bretonne. Et aujourd'hui, il y a quelques sorties Québec, Belgique, je crois. Il m'a semblé avoir un ou deux liens, mais bon, c'est très 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 majoritairement
très francophone,
français.
Quoi.
Ouais, tout à fait.
Là aujourd'hui, on parle également de redécentralisation d'Internet. Que c'est la redécentralisation d'Internet? Pour parler un peu de Framasoft.
Absolument. Bah, déjà, pourquoi redécentralisation? Eh bien parce que à la base, Internet était totalement décentralisé. Décentralisé, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de centre névralgique par lequel toutes les connexions passeraient.
C'était le principe de la toile, quoi.
Exactement. À la base, les universités étaient reliées les unes entre elles. Voilà, c'était quelque chose d'assez universitaire, justement, au début. Et à partir du moment où il y a commencé à avoir des entreprises, donc des grosses structures qui ont proposé des services gratuits que les gens se sont mis à utiliser, eh bien on se rend compte que la plupart du trafic sur Internet passe exactement par les mêmes endroits, les mêmes entreprises, et donc mène au même point. Donc évidemment, ça pose le problème qu'on a dit au début de la concentration des pouvoirs, et donc redécentraliser Internet, c'est tout simplement... on pourrait faire un parallèle avec les AMAP, en fait. On pourrait dire que c'est un peu créer des AMAP du numérique, donc faire de l'informatique locale,
au lieu de passer par Carrefour, Leclerc, etc.
Exactement,
quoi.
Tout à fait. Donc c'est l'idée, on en parlera peut-être tout à l'heure des chatons.
On peut parler des chatons.
On peut parler des chatons. alors, je pense que Framasoft, c'est une association donc, française qui milite pour le logiciel libre en particulier, qui commence à être assez connue. Et donc Framasoft s'est mis à proposer des services alternatifs à ceux de Google. Donc à Google Agenda, à Google Forms,
à Doodle,
voilà. Donc et aussi de gros acteurs Facebook, Twitter, etc. Et le truc c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se sont dit ok c'est super cool les services libres, ma vie privée elle ne va mieux, on vend pas mes données, Framasoft ils sont sympas, enfin tout ça. Mais Framasoft s'est dit à un moment ok on commence à avoir vraiment beaucoup d'utilisateurs, peut-être qu'on approche du million et l'idée c'est pas de redevenir
nous-mêmes
un GAFAM en fait. C'est-à-dire que bien sûr, même avec une éthique, même avec tout ça, il y a plein d'autres problèmes que ça pose, de la concentration des données, et puis même eux, ils n'ont pas les infrastructures pour maintenir tout ça.
Donc les serveurs, etc. quoi.
Exactement, c'est très compliqué. Donc ils ont initié un mouvement qui s'appelle le Chaton, donc pour collectif d'hébergeurs alternatifs transparent, ouvert, neutre et solidaire.
C'est ça, absolument. Ouais, c'est bien ça. sans note. Hein.
Exactement. Et l'idée, donc, c'est effectivement d'essaimer tout ce mouvement de proposition de services libres. Et donc aujourd'hui, il y a une soixantaine, je crois, d'hébergeurs à taille humaine, en fait, un petit peu partout en France, qui proposent des services libres aux gens de la région, mais aussi aux gens d'ailleurs, en fait, à qui veut. Et donc, voilà, qui participe à cet SMA. Je ne sais pas si quelque chose à rajouter. Picassoft est un chaton, d'ailleurs.
Du coup, qu'est-ce que propose Picassoft? Vous proposez des serveurs avec le... Parce que le but, c'est d'utiliser les mêmes outils. Là, souvent, quand on utilise Facebook, c'est parce que tout le monde est Facebook, sur Facebook. Si on utilise, je ne sais pas moi, Doodle, c'est parce que tout le monde sait utiliser Doodle. Est-ce que, du coup, vous utilisez les mêmes logiciels, les mêmes outils que Framasoft, par exemple? Ou vous en avez créé d'autres qui sont à peu près similaires?
Alors actuellement, les services qu'on propose, c'est un service de discussion, un petit peu similaire à Slack, pour ceux qui connaissent, donc qui s'appelle Mattermost.
C'est comme IRC, en fait, à l'époque. Comme ça.
on peut dire que c'est exactement comme IRC. Ouais.
En gros, on se connecte sur un serveur et puis on discute avec des gens.
On discute avec des différents canaux, des
comme
équipes,
Caramel aussi, dans les années 2000.
Retour vers le futur.
Exactement. Et on propose aussi un service d'écriture collaborative qui ressemble un petit peu à Google Documents, mais en fait, qui n'est pas difficile à utiliser. Et concrètement, comme il n'y a pas besoin d'avoir un compte, forcément, pour se rendre là-dessus, bah, on n'a pas besoin d'avoir un service où tout le monde est dessus, comme vous dites, puisqu'on peut s'y connecter sans compte. Après, effectivement, juste, vous soulevez un point super intéressant, c'est que ce qui fait la force des réseaux sociaux, des gros réseaux sociaux comme Facebook, c'est pas leur produit, puisqu'en soi, il n'est pas si incroyable que ça, c'est le nombre de gens qu'il y a dessus. La plupart des gens refusent de quitter Facebook pour des produits qui sont mieux technologiquement, éthiquement, etc.
C'est juste parce qu'il y a sa famille, il y a les amis, etc. Et que du coup, les personnes âgées et puis les plus jeunes peuvent communiquer au même endroit.
Et du coup, aujourd'hui, on peut se dire, bon bah ok, si chaque chaton se met à héberger son petit réseau social, bah on va être 5 Pékins dessus et c'est pas très pratique. Et en fait, pas du tout. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux dits décentralisés, où en fait, chacun héberge sa petite instance dans son coin, mais ces instances forment une fédération et communiquent entre elles. C'est-à-dire que moi, si j'ai mon instance à Picasoft, eh bien, je peux parler avec quelqu'un de n'importe quelle instance, le suivant, communiquer avec lui. Et donc, c'est exactement l'esprit d'Internet tel que c'était au début, quelque chose de décentralisé, mais où on communique tous ensemble, et donc où il n'y a pas de gouvernance centrale.
Comment,
ça, c'est beau.
Comment on fait survivre, du coup, ce système-là? Comment on paye les serveurs? Parce que du coup, Facebook utilise nos données, vend des pubs, mais comment vous faites, vous, pour c'est quoi, c'est pour avoir de l'argent, pour faire tourner les serveurs, pour payer l'électricité, etc.
Alors, pour les chatons en général ou pour
ouais,
nous,
Picasoft chatons, ouais, ou pour Picasoft, ouais.
Alors, ça dépend, chacun a son modèle économique. Il y a des gens qui vont beaucoup compter sur les dons, par exemple. Okay. Aussi, vu que c'est souvent du bénévolat et que les serveurs, ce n'est pas des gros serveurs, bah, le coût est finalement pas si élevé. Donc, il y a des gens qui vont effectivement prendre un peu de leur argent. Là, dans le cas de Picasoft, au début, on a été financé par un fonds de recherche. Et donc là, bah, effectivement, on vit pas mal des dons et puis aussi des événements qu'on fait à droite à gauche, des ventes de petits stickers, de choses comme ça. Mais finalement, on n'a pas un coût extrêmement important, puisqu'on reste à taille humaine. Et donc, si tout le monde se fédère avec plein de petites choses à taille humaine, bah, finalement, on a une assez grosse infrastructure, mais qui n'est pas contrôlée par une seule personne.
C'est peut-être un élément important à souligner, c'est que c'est aussi, je pense, un des points qu'on veut montrer avec, avec ce qu'on fait, c'est qu'en fait, à la fin, se rapproprier justement les moyens d'Internet qui ont été aujourd'hui concentrés dans quelques acteurs, finalement, c'est pas si compliqué et c'est pas si coûteux. Alors, je dis c'est pas si compliqué, voilà, il faut quand même quelques informaticiens ici à un moment qui font des choses pour de vrai, ça coûte quand même quelques centaines d'euros peut-être, mais du coup ramener à chaque personne, c'est quelques euros par an. Donc en fait, à la fin, tout ce qu'on a perdu en termes de liberté, tout ce qu'on a mis à disposition en termes de données, c'est quand même pour pas grand-chose, quoi. C'est, pour moi, c'est un point très important.
Donc là, on a parlé de la décentralisation un peu d'Internet. Comment ça se passe d'un point de vue réseau, d'un point de vue tuyau? Puisque là, si on peut se connecter sur plein de sites différents, mais si on a un seul fournisseur du genre Free, Orange, SFR, comment on fait pour avoir accès du coup à cette donnée? Puisque du coup, eux sont les centralisateurs.
Alors effectivement, aujourd'hui, c'est, disons, pas évident de se passer, parce que là, on parlait des centralisateurs de services, hein, comme Google et compagnie, mais en effet, les fournisseurs d'accès à Internet centralisent quasiment toutes les connexions.
La grosse crainte aujourd'hui, c'est par exemple que les petits sites aient moins de débit que certains gros sites.
Exactement.
Voilà, c'est ce qui peut arriver, quoi.
C'est toute cette histoire de neutralité du net qui, pour l'instant, a l'air d'être bien défendue, du moins en Europe, hein. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est plutôt le cas. Ceci dit, il existe des fournisseurs d'accès à Internet alternatifs, associatifs. Par exemple,
c'est le cas pour Rhizome à l'UTC.
Exactement, Rhizome à Compiègne, je crois qu'il y a Mycelium à Lille. Nous, on est hébergés chez Tétaneutron qui est à Toulouse. Tétaneutral, pardon. et voilà, du coup, c'est pas impossible de décentraliser aussi sa connexion Internet. Mais c'est vrai que c'est moins connu, on en parle un petit peu moins.
Donc là, c'est-à-dire que les fournisseurs d'accès alternatifs achètent une bande passante qui repartage avec leurs utilisateurs?
Exactement, c'est tout à fait ça. Ouais.
Ok, donc il faut encore que les FAI traditionnels, enfin, faut que le réseau Internet accepte qu'on puisse acheter de la bande passante. C'est quelque chose de simple aujourd'hui?
Ça, il me semble que... Alors, c'est pas forcément simple, hein, puisque un opérateur, un FAI, doit se déclarer à l'ARCEP. Je crois.
Ça, c'est les télécoms, c'est pour les télécoms.
Je maîtrise pas très bien. Ouais, mais en tout cas, je crois que la loi au niveau de la concurrence, oblige en tout cas les propriétaires matériels des lignes à en louer, en fait. Donc, ce qui ouvre en théorie à la concurrence, mais ce qui en pratique est évidemment très compliqué.
Comment vous voyez l'avenir ? Est-ce que vous voyez l'avenir, justement ? Est-ce qu'on pourra construire un ensemble souhaitable tous ensemble ? Ou est-ce qu'on va droit dans le mur, comme la théorie de l'effondrement actuelle, d'après vous ?
Wow.
Vous avez deux minutes.
D'une certaine façon, si on était sûr qu'on allait dans le mur, on serait en train de faire autre chose que d'essayer de construire. Tu vois, on serait certainement.
Des fois, on est fataliste.
On profiterait des derniers instants qui nous restent. Tu vois, on s'embêterait pas à essayer de construire.
Il y a toujours de l'espoir. Okay. On a toujours un peu d'espoir, mais.
Donc si il y a de l'espoir évidemment. Enfin, c'est, encore une fois, sinon on bougerait pas. Encore une fois, je trouve que on a parlé un petit peu de Framasoft, mais je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de super intéressant dans leur démarche. C'est-à-dire qu'au-delà de faire la leçon, de dire c'est pas bien d'utiliser ceci, cela, encore une fois, on peut refaire aussi un peu le parallèle avec l'écologie, hein. Au-delà de faire la leçon, au-delà de monter des théories catastrophistes, au-delà de faire peur, etc. À un moment, ils ont dit OK. Soit, pourquoi pas, il y en a qui font ça. Nous, on va juste faire un truc, c'est qu'on va faire autre chose. On va faire autrement, on va proposer autrement. Et au pire, eh ben pendant ce temps-là, de toute façon, on aura occupé le terrain, on aura avancé. Donc, c'est vraiment cette démarche de dire, si on veut faire d'autres trucs, on peut, quoi. Et aujourd'hui, il y a les moyens de faire ça. Moi, je sais que voilà, ce qu'on fait avec Picasso, ça montre ça aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va changer le monde à nous six? Probablement pas.
Dans l'échelle de l'humanité, quand même, c'est court, c'est 20 ans, 30 ans, quoi. Là, actuellement, dans le système dans lequel on est parti, c'est, si on remet ça à l'échelle de l'humain, on est à quelques...
Donc, raison de plus pour penser que c'est que ça peut changer, c'est ça que... Ouais.
Bah oui.
Et puis encore une fois, pour moi, au-delà de... À la limite, c'est presque une question qu'on n'est pas obligé de se poser, à mon sens, en tout cas, de décider de ça. Pour moi, c'est pas si important de décider de ça. En revanche, de faire des trucs, d'essayer de bouger des lignes, de voir que ça, c'est possible, c'est quand même vachement intéressant. Ce qui serait vraiment inquiétant, c'est de se dire que de toute façon, on n'arrive plus à bouger de lignes. Là, oui, on serait dans un système figé ou totalitaire, etc.
Ouais.
Et aujourd'hui, on peut bouger des lignes, quoi.
Ouais. Si je peux me permettre d'enfoncer une clou juste 30 secondes, c'est que effectivement souvent aujourd'hui quand on parle aux gens ils nous disent ouais mais on peut rien faire, ils sont trop puissants, ils sont trop gros, etc. Et en fait je pense que il faut renverser à un moment cette idée que c'est pas nous, en pratique bon. On n'est pas tant dépendant aux GAFAM que eux sont dépendants de nous. C'est-à-dire que eux, leur modèle économique sont basés sur le nombre d'utilisateurs qu'ils ont. Si jamais nous on se dit tous on se barre. Et bien en fait, on peut construire le monde qu'on veut. Et je pense que c'est une idée que défendent beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent nos politiques ne nous conviennent pas ou whatever. Hein. Moi, je suis pas là pour parler politique.
Le boycott peut être très efficace.
Complètement,
quoi.
Complètement. Et donc, je pense que la stratégie justement de ces grands groupes est de nous donner un sentiment d'impuissance. Alors qu'en réalité, non. Le pouvoir, évidemment, est aux gens et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, s'ils se fédèrent.
Souvent, on voit alors, je ne sais pas si c'est que la CNTK ça, mais c'est plein de petits poissons qui se font poursuivre par un énorme poisson et ils se font manger. Et en fait, on voit les petits poissons qui forment un gros poisson et qui mangent le gros poisson. C'est un peu cette image-là, quoi.
C'est un peu ça, dans l'idée.
Si on devait faire qu'une seule chose, la chose la plus simple que vous nous conseillerez à faire, ça serait par rapport à tout ce qu'on a dit pendant l'émission, ça serait quoi pour un utilisateur lambda qui n'est pas très doué avec son ordinateur?
Alors, je suis pas très doué pour répondre à ce genre de questions, mais je dirais taper peut-être chaton sur internet et puis prenez contact avec un chaton de votre région, allez discuter avec lui, envoyez-lui un mail et puis voilà quoi.
Donc, chez chaton avec un S, on mettra également sur les réseaux sociaux, on mettra le lien. Où est-ce qu'on peut retrouver vos travaux? Où est-ce qu'on peut vous contacter si on souhaite vous contacter et puis prendre contact avec vous si on est compiègne-moi et qu'on se pose encore des questions?
Picasoft.net pour notre site. Et puis voilà.
Et on retrouve où, du coup, le livre Trace? Il est disponible à la librairie des signes? Il est disponible dans le monde réel?
Il est disponible dans le monde réel et en effet à la librairie des signes. Donc voilà, les Compiénois peuvent s'y rendre. Dans quelques autres librairies en France, mais pas beaucoup. Mais en tout cas, la librairie des signes. Et on peut l'acheter en ligne sur framabook.org.
Et alors, il y avait un extrait que j'ai trouvé sur Internet. C'est « Le monde se divise en deux catégories, my friend. Ceux qui ont une émission sur le réseau libre et ceux qui écoutent, toi tu écoutes. » Voilà, j'espère que les gens auront reconnu le petit clin d'œil du « C'est quoi, c'est le bon, la brute et le truand, c'est ça ?» Ou « C'est toi celui qui a le revolver et celui qui creuse, toi tu creuses. » Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. J'espère que ça a été clair. En tout cas, si vous avez des questions, des compléments, n'hésitez pas à nous contacter sur Internet. On fera suivre. Bon après-midi, bon courage. Et on mettra la vidéo du coup sur YouTube. Et c'est quoi l'endroit où on peut l'avoir en libre?
Peertube.
Ok, Peertube. On mettra ça sur Peertube également. Bon après-midi, bon courage, et on se donne rendez-vous demain matin. Cette fois, demain matin, on parlera de l'économie de fonctionnalité. Demain, c'est ça, jeudi, et puis vendredi, on parlera de l'éco-conception. Bon après-midi, bon courage, et puis à demain. Salut.